Dis-moi pourquoi tu t'intéresses aux autobus, m'a demandé Sadie. Dis-moi d'abord comment tu m'as retrouvé. Quand je suis arrivé à Eden Fellows et que j'ai découvert que tu étais parti, j'ai brûlé le mot que tu m'avais laissé comme tu me le demandais. Puis je suis allé trouver le vieux monsieur d'à côté. Mr. Kenopensky. Ouais. Il n'a rien su me dire. La kiné était arrivée entre-temps, je l'ai trouvée assise sur ton escalier. Elle n'était pas très contente de te trouver absent. Elle m'a dit qu'elle avait échangé avec Doreen pour que Doreen puisse aller voir Kennedy aujourd'hui. L'arrêt de bus de Winscott Road était devant nous. J'ai ralenti pour voir si un horaire était affiché sous le petit abri à côté du poteau, mais il n'y avait rien. Je me suis rangé le long du trottoir, 100 mètres plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Je souscris une assurance. Si aucun bus n'arrive d'ici à 9 heures, on continue. Finis ton histoire. J'ai appelé les hôtels du centre de Dallas, mais ils n'ont même pas voulu me parler. Ils sont tous archi complets. Alors j'ai appelé Deke, qui a appelé la police. Il leur a dit qu'il savait de source sûre que quelqu'un allait tirer sur le président. J'avais les yeux fixés sur mon rétroviseur pour surveiller l'arrivée du bus, mais sous le choc, je les ai tournés vers Sadie. Malgré moi, j'éprouvais une admiration réticente pour Deke. J'ignorais jusqu'à quel point il avait cru ce que Sadie lui avait dit, mais il avait quand même pris le risque. Que s'est-il passé? Il a donné son nom? Il n'a même pas eu le temps. Ils l'ont raccroché au nez. Je crois que c'est là que j'ai vraiment commencé à te croire quand tu disais que le passé se protège. Et pour toi, c'est exactement ce que c'est, n'est-ce pas? Du passé. Juste un livre d'histoire vivant. Plus maintenant. Voici qu'arrivait un bus brinque-ballant vert et jaune. La fenêtre de destination indiquait 3 Main Street, Dallas 3. Il s'est arrêté et les portes avant et arrière se sont ouvertes en accordéon. Deux ou trois personnes sont montées, mais je me suis demandé comment elles allaient trouver des sièges. Quand le bus nous a dépassés lentement, j'ai vu qu'ils étaient tous occupés. J'ai aperçu une femme avec une rangée d'épinglettes à l'effigie de Kennedy piquée dans son chapeau. Elle m'a fait un petit signe gai, et nos regards ne se sont pas croisés plus d'une seconde, mais j'ai senti toute son excitation, son plaisir et son impatience. J'ai passé ma vitesse et déboîté pour suivre le bus. À l'arrière, en partie obscurcie par des bouffées de gaz d'échappement brun, une fille clairole au sourire radieux proclamait que si elle n'avait qu'une seule vie, elle voulait la vivre en blonde. Sadie agita la main d'un geste théâtral.
« Arc ! Le colle pas comme ça, il pue !»
Elle avait raison, la puanteur du diesel était écœurante. J'ai creusé la distance. Je n'avais aucun besoin de le coller maintenant que je savais que la petite Sadie nous avait donné le bon numéro. Elle devait nous avoir donné le bon intervalle aussi. Les bus devaient circuler toutes les demi-heures les jours ordinaires, mais aujourd'hui n'avait rien d'un jour ordinaire. J'ai pleuré encore un peu parce que je pensais que tu étais parti pour toujours. J'avais peur pour toi, mais je te détestais aussi. Je pouvais le comprendre. Et pourtant, j'avais la conviction d'avoir fait le bon choix. Aussi m'a-t-il semblé préférable de ne rien dire. J'ai rappelé Deke. Il m'a demandé si tu avais déjà fait allusion à un autre pied-à-terre que tu aurais eu. Peut-être à Dallas, mais plus probablement à Fort Worth. Je lui ai dit que je ne me souvenais d'aucune allusion particulière. Il m'a dit que tu avais pu dire quelque chose pendant que tu étais à l'hôpital et que tu battais la campagne. Il m'a dit de mieux réfléchir, comme si c'était pas déjà ce que je faisais. Je suis retourné chez Mr. Kenopensky en espérant que tu lui avais peut-être dit quelque chose. C'était déjà presque l'heure du souper et la nuit commençait à tomber. Il m'a dit que non, mais sur ces entrefaites, son fils est arrivé avec un rôti et m'a invité à manger avec eux. Mr. K s'est mis à parler. Il a toutes sortes d'histoires d'autrefois à raconter. Je sais. Devant nous, le bus a pris vers l'est par Vickery Boulevard. J'ai mis le clignot et je l'ai suivi, mais en restant suffisamment loin derrière pour qu'on n'ait pas à bouffer du diesel. J'ai dû en entendre une bonne cinquantaine. Des histoires de cow-boys saignantes pour la plupart. J'ai bien fait de l'écouter. Parce que j'ai arrêté de me creuser la cervelle pendant ce temps et parfois, quand on se détend, les choses se décantent et remontent à la surface. Et en rentrant dans ton petit chez-toi, je me suis soudain rappelé que tu pensais avoir vécu quelque temps dans Cadillac Street. Sauf que tu savais que c'était pas exactement ça. Oh mon Dieu, je l'avais complètement oublié. C'était ma dernière chance. J'ai rappelé des quais. Il n'avait aucun plan détaillé de la ville, mais il savait qu'il y en avait à la bibliothèque du lycée. Il a aussitôt pris sa voiture pour y aller, en toussant à s'arracher les poumons probablement, il est encore bien malade, et il m'a rappelé au bureau. Il avait trouvé une Ford Avenue à Dallas, un Chrysler Park et plusieurs Dodge Street. Mais à côté de Cadillac, rien de tout ça faisait le poids, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, il a trouvé Mercedes Street à Fort Worth. J'ai voulu y aller sans attendre, mais il m'a dit que j'aurais bien plus de chances de t'apercevoir ou d'apercevoir ta voiture si j'attendais le matin. Elle m'a saisi le bras. Sa main était froide. Ça a été la plus longue nuit de ma vie, espèce de sale gosse. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil. Je m'en suis chargé pour toi, même si j'ai dû m'endormir qu'à l'aube. Si t'étais pas arrivé, j'aurais pu continuer à dormir pendant tout le temps de ce foutu assassinat. Ça aurait été carrément lamentable comme fin, non? Mercedes est longue comme un jour sans pain. J'ai roulé, roulé. Enfin, j'en ai vu le bout. Le parking d'un grand bâtiment qui ressemble à l'arrière d'un grand magasin. Presque. C'est un entrepôt de la Montgomery Ward. Et toujours pas trace de toi. Je peux pas te dire à quel point j'étais découragé. Et puis, elle a souri. Un sourire radieux malgré sa cicatrice. Et puis j'ai vu la cheville rouge avec ses ailes en forme de sourcils féminins, voyante comme une enseigne au néon. J'ai hurlé de joie en tambourinant sur le tableau de bord de ma coccinelle jusqu'à en avoir mal à la main. Et voilà comment je suis là. Un choc suivi d'un ferraillement sourd résonna à l'avant-droit de la cheville. Et tout à coup, la voiture obliqua vers un lampadaire. Une série de coups étouffés retentirent sous la voiture. J'ai braqué. Le volant était complètement mou entre mes mains, mais il me restait encore juste assez de direction pour éviter de me prendre le poteau de plein fouet. C'est le côté de Sadie qui l'a raclé, dans un horrible crissement de métal. Sa portière s'est incurvée vers l'intérieur et je l'ai attirée brutalement vers moi. Quand la voiture s'est arrêtée, elle penchait à droite, le capot suspendu au-dessus du trottoir. « C'est pas juste un pneu crevé », j'ai pensé. « C'est une putain de panne fatale. » Sadie me regardait, interloqué. Moi, j'ai ri. Parfois, comme je l'ai déjà observé, il n'y a rien d'autre à faire. « Bienvenue dans le passé, Sadie. Voici comment on vit par ici. » Sadie ne pouvait pas sortir de son côté. Il aurait fallu un pied de biche pour forcer sa portière. Elle a glissé ses fesses jusqu'au bout de la banquette pour sortir de mon côté. Quelques passants, peu nombreux, nous observaient.
« Oh là là, que s'est-il passé ?»
demanda une femme qui poussait un landau. Ça m'a sauté aux yeux dès que j'ai contourné la voiture. La roue avant droite s'était détachée. Elle gisait 5 ou 6 mètres derrière nous au bout d'un sillon courbe creusé dans l'asphalte. Le moignon de l'essieu brisé luisait au soleil. « Une roue cassée !» j'ai dit à la femme au landau.
« Aïe, aïe, aïe !»
elle a dit.
« Qu'est-ce qu'on fait ?»
m'a demandé Sadie à voix basse. On a souscrit une assurance, maintenant on obtient réparation. Arrêt de bus le plus proche.
Ma valise ?
Oui, j'ai pensé. Et la parole de Hal, et mes manuscrits, mon roman merdique qui ne comptait pas, et mes mémoires qui, eux, comptaient.
plus ma réserve d'argent liquide.
J'ai consulté ma montre. 9h15. À l'hôtel Texas, Jackie était en train d'enfiler son tailleur rose. Après une ou deux heures de politique, le cortège partirait pour la base de l'armée de l'air Carswell où le gros avion attendait. Vu la distance séparant Fort Worth de Dallas, les pilotes auraient à peine le temps de remonter le train d'atterrissage. Je me suis forcé de réfléchir.
« Voulez-vous téléphoner de chez moi pour prévenir quelqu'un ?»
a proposé la femme au landau.
« J'habite au bout de la rue. »
Elle nous a passé en revue, notant ma jambe boiteuse et la cicatrice de Sadie.
« Vous êtes blessé ?»« Non, non, nous allons bien, »
j'ai dit. J'ai pris le bras de Sadie.
« Vous voulez bien vous charger d'appeler une station-service pour leur demander de la remorquer ?»« Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais nous sommes terriblement pressés. »
Je lui avais bien dit que je trouvais que l'avant tremblait, lui expliqua Sadie en rajoutant dans le style accent traînant de Géorgie.
Merci, mon Dieu. Heureusement que c'est pas arrivé sur l'autoroute. Il y a une station Esso à 2 rues d'ici.
La femme indiqua la direction du nord.
Je crois que je peux aller promener le bébé par là. Oh, ça nous sauverait la vie, madame,
poursuivit Sadie. Elle ouvrit son sac à main, prit son portefeuille et en retira un billet de 20.
« Donnez-leur ceci en acompte. Désolé de vous embêter avec ça, mais si je peux pas voir Kennedy, je crois que j'en mourrai. »
Cela fit sourire la femme au landau.
« Grand Dieu ! Mais c'est assez pour payer 2 remorquages. Si vous aviez un bout de papier dans votre sac à main, je vous signerais un reçu. »«
C'est bon, » dis-je. « Nous vous faisons confiance. Mais je vais peut-être glisser un mot sous l'essuie-glace. » Sadie m'a interrogé du regard, mais déjà elle me tendait un stylo et un petit bloc-notes avec un gamin bigleux de dessin animé sur la couverture. « À l'école des maîtresses », y avait-il écrit en haut. « On y danse sur les fesses », y avait-il écrit en bas. Beaucoup dépendrait de ce mot, mais je n'avais pas le temps d'en peaufiner les termes. J'ai griffonné rapidement et glissé le papier plié sous le caoutchouc de l'essuie-glace. L'instant d'après, nous avions tourné le coin et disparu.
Jake, tu n'as rien ?
Non.
Et toi ? Je me suis fait un peu bousculer par la portière et je vais sûrement avoir un bleu sur l'épaule, mais sinon rien. Si on avait embouti ce poteau, je m'en serais sûrement pas sorti indemne. Et toi non plus.
Pour qui tu as laissé le mot ? Pour celui qui remorquera la cheville. Et j'espérais que celui qui ferait ce que je lui demandais. On s'inquiétera de ça à notre retour. Si il y avait un retour. L'arrêt de bus le plus proche était à moins d'une rue de là. 2 femmes noires, 2 blanches et un homme d'origine hispanique étaient debout sous l'abri, présentant un échantillon racial si équilibré qu'on aurait dit des candidats pour le casting de New York Unité Spéciale. Nous nous sommes joints à eux. Je me suis assis sur le banc à côté d'une autre femme afro-américaine dont les proportions héroïques étaient sanglées dans un uniforme blanc en rayonne, proclamant quasiment « gouvernante chez famille blanche aisée ». Sur la poitrine, elle portait un pins, affirmant « jusqu'au bout en 64 avec JFK ».
« Une patte à la traîne, monsieur ?»
m'a-t-elle demandé.
« Oui. »
J'avais 4 sachets de poudre magique dans la poche de mon veston. J'ai fouillé sous le pistolet, en ai trouvé 2, déchiré les coins et versé le contenu dans ma bouche.
« Oh, en les prenant comme ça, vous allez vous esquinter les reins !»
elle m'a fait remarquer.
« Je sais, mais il faut que cette patte me tienne assez longtemps pour voir le président. »
La face de la dame s'est illuminée d'un sourire.
« À qui le dites-vous ? »
Sadie, debout au bord du trottoir, guettait anxieusement l'arrivée du bus numéro 3.
« Les bus roulent comme des escargots aujourd'hui, »
a dit la gouvernante.
« Mais le nôtre devrait plus tarder. »« Pas question que je loupe Kennedy, non, non, non. »
9h30 sont passées et toujours pas de bus. Mais Dieu bénisse la goodies, la douleur dans mon genou n'était plus qu'un palpitement sourd. Sadie est venue s'asseoir près de moi.
« Jake, peut-être qu'on devrait... »« Voici un 3 qui s'en vient !»
a dit la gouvernante en se levant.
C'était une femme impressionnante, foncée comme l'ébène, plus grande que Sadie d'au moins 3 centimètres, les cheveux lissés et luisants.
« Youhou ! Oh, je vais me trouver une jolie place là-bas sur Dealey Plaza. J'ai les sandwiches dans le sac pour midi et je vais un peu crier. Ça, oui, il va m'entendre. Et Jackie aussi. »
Le bus était plein, mais en se serrant, les gens qui attendaient à l'arrêt ont quand même réussi à monter. Sadie et moi étions les derniers, et le conducteur, l'air aussi découragé qu'un courtier de Wall Street le vendredi soir, a brandi la paume de sa main.
« Pas plus ! Je suis plein ! Ils sont tassés comme des sardines là-dedans ! Attendez le prochain !»
Sadie m'a jeté un regard angoissé. Mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, la dame imposante a volé à notre rescousse.
« Non, 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 non. Vous les laissez monter, ces deux-là. Lui, il traîne la patte. Et la dame, vous voyez bien qu'elle a eu aussi ses problèmes. Et puis elle n'est pas épaisse. Et lui, il est encore moins épais. Vous les laissez monter ou c'est moi qui vous fais descendre pour piloter ce bus moi-même, parce que je sais faire ça aussi. J'ai appris sur le vieux bulldog Lance à mon papa. »
Le chauffeur de bus l'a regardé, le surplombé. Il a levé les yeux au ciel et nous a fait signe de monter. Comme je cherchais des pièces dans ma poche, il a couvert le monnayeur de sa grosse main.
« Ah, laissez tomber. Mettez-vous juste derrière la ligne blanche si vous y arrivez. »
Il a secoué la tête.
« Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté une douzaine de bus supplémentaires aujourd'hui. »
Il a tiré sur la poignée chromée et les portes en accordéon avant et arrière se sont repliées. Les freins à air comprimé se sont relâchés dans un « tchouf » et nous avons démarré, lentement mais sûrement. Notre bon ange n'en avait pas terminé. Elle a commencé à houspiller 2 travailleurs, un noir et un blanc, assis juste derrière le conducteur avec leurs gamelles sur les genoux.
« Levez-vous donc, tous les deux, et laissez vos places à cette dame et à ce monsieur. Voyez donc pas qu'il a une patte folle, et il va quand même voir Kennedy. »
« Dame, ça ne fait rien, » j'ai dit. Elle m'a ignoré.
« Levez-vous donc. Vous avez grandi dans la remise à bois ou quoi ?»
Les deux hommes se levèrent et se frayèrent un chemin à coups de coude dans la foule compacte qui encombrait l'allée. L'ouvrier noir jeta un regard mauvais à la gouvernante. « 1963 et il faut encore que je cède ma place au blanc. »«
Oh, pauvre de toi !»
lui a fait son copain blanc. Le noir a regardé mon visage à 2 fois. Je ne sais pas ce qu'il y a vu, mais il m'a montré du doigt les sièges laissés libres. « Assieds-toi avant de tomber. » Je me suis assis près de la fenêtre. Sadie a murmuré des remerciements et s'est assise à côté de moi. Le bus se traînait comme un vieil éléphant, encore capable d'atteindre le galop, pour peu qu'on lui en laisse le temps. La gouvernante nous surplombait, protectrice, cramponné à une poignée et ondoyant des hanches dans les virages. J'ai consulté ma montre. Les aiguilles semblaient furieusement pressées de marquer 10 heures et elles n'allaient pas tarder à être furieusement pressées de les dépasser. Sadie s'est penchée vers moi et ses cheveux m'ont chatouillé la joue et le cou.
« Où on va ? Et qu'est-ce qu'on fera quand on y sera ?»
J'aurais voulu me tourner vers elle, mais j'ai continué à regarder droit devant, guettant les ennuis, guettant le prochain coup du sort. Nous étions sur West Division Street à présent, qui est aussi la route 180. Bientôt, nous entrerions dans Arlington, futur berceau de l'équipe des Texas Rangers, chère à George W. Si tout allait bien, nous devrions entrer dans Dallas autour de 10h30, soit 2 heures avant qu'Oswald ne remplisse le magasin de son maudit fusil italien avec sa première série de cartouches. Mais quand on essaie de changer le passé, les choses se déroulent rarement bien.
« Contente-toi de me suivre, » je lui ai dit, « et ne relâche pas ta vigilance. »